au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs, merci d'écouter Canal Académie. Claude Leroy, poète et écrivain, est venu dans notre studio pour présenter son livre. Ce livre intitulé « Ce bon monsieur de Saint-Amand ». Saint-Amand est un poète et une figure pittoresque et ce fut un des premiers académiciens français. Bonjour Claude Leroy.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de nombreux romans, biographies, essais et poésies, fondateur de la revue Noréal. Vous animez à Caen le cercle littéraire André Druel et depuis l'an 2000, vous présidez la Société des écrivains normands. Saint-Amand, ce livre que vous présentez est très beau, il a un papier velouté, il est fait d'une façon très fine et très élégante, avec son contenu et le fond et la forme. Donc Saint-Amand, c'est la deuxième biographie d'une tétralogie de poètes et de rimes et d'épées. Votre premier ouvrage de cette série évoquait le poète Antoine de Montchrétien. Qui seront les suivants ?
Alors les suivants, le troisième ce sera Saint-Évremond. Et le quatrième, Pierre Corneille Blessebois. Tous poètes et tous maniant l'épée, soit à la guerre, soit dans la clandestinité.
Des duellistes.
Voilà.
Alors, pour en revenir à ce bon monsieur de Saint-Amand, c'est en fait un vrai roman d'aventure que sa vie. Peu de poètes ont autant bourlingué. Ce fut un homme complet, homme de lettres, soldat, diplomate et c'est là où nous allons nous amuser, bon vivant. Estimé en son temps, sa vie, son œuvre furent débordantes, son art original, parce que c'était un poète très moderne. Son ode à la solitude, dont vous nous lirez quelques strophes, l'atteste. Claude Leroy, pourquoi avoir choisi cette biographie, cet homme-là, et qui est ce personnage aux multiples facettes ?
Alors, pourquoi avoir choisi Saint-Amand ? C'est parce que c'est un poète. Je crois, étant poète moi-même depuis l'âge de 15 ans, j'aime beaucoup la poésie et j'aime beaucoup les poètes. Alors, ça a été une des premières raisons. Mais j'aime raconter la vie des poètes, et en particulier des poètes qui sont, à mon gré, trop oubliés à notre époque. Alors, Saint-Amand correspondait parfaitement au modèle que j'avais en programme, en quelque sorte.
Oui, un personnage haut en couleur,
oui,
mais très fin.
Très fin, qui écrit de la poésie superbe, comme vous avez dit, et puis qui a une vie très agitée, une vie d'aventure. C'est l'objet de ces quatre poètes de la série, n'est-ce pas ? Il faut qu'ils soient poètes, bien sûr, qu'ils écrivent en vers, soit de la poésie lyrique, soit de la tragédie, ou d'autres formes, mais il faut aussi qu'ils aient l'habitude de manier l'épée, à la guerre le plus souvent, mais parfois en duel.
Votre livre montre des séquences, des tableaux de la vie de Saint-Amand. Et quelles sont ses origines familiales ? Pourquoi pensez-vous qu'il ait eu besoin de tant bourlinguer ?
Les origines familiales sont bien connues. Il appartient à une famille protestante de Rouen. Son père, on a dit dans certaines biographies, mais on n'a pas vraiment de certitude, qu'il était armateur. Non, à mon sens, il était négociant avec les armateurs, c'est-à-dire qu'il fournissait du matériel, par exemple. Mais c'était quelqu'un sur la place de Rouen qui avait une place tout à fait honorable.
Et un bourgeois.
Oui, oui, il appartenait vraiment à la bourgeoisie.
Alors pourquoi ce nom, Monsieur de Saint-Amand ?
Ah ben, il ne s'appelait pas Saint-Amand, il s'appelait Girard ou Gérard. C'était la famille Girard. On a les deux parce que Saint-Amand, parfois, il a signé Gérard à la place de Girard. Alors,
c'est un jour où il avait un petit peu bu ?
Peut-être, c'est possible. En tout cas, appelons-le Girard. Et son père, qui s'appelait comme lui Antoine, s'appelait simplement Antoine Girard. Saint-Amand, c'est venu plus tard. Et bon, à mon avis, c'est plutôt un nom de plume qu'autre chose.
C'est un beau nom.
C'est un beau nom. C'est plein de symboles.
Alors lui ne sera pas négociant.
Non, alors son père, qui par la suite va être chargé d'une verrerie à Rouen. Mais au départ, lorsque Saint-Amand est jeune, il n'est pas chargé de cette verrerie. Donc son père aimerait bien que, étant donné que c'est son fils aîné, puisqu'il a trois garçons et trois filles, il aimerait bien qu'il lui succède. Or, le jeune homme n'a pas beaucoup de goût pour le commerce et ça ne l'intéresse pas beaucoup. Alors son père consent à ce qu'il fasse une sorte de voyage initiatique quand il a 18 ans, sur un navire, puisque son père est en bonne relation avec les armateurs de Rouen, qui sont assez importants à cette époque-là. Donc, le voilà parti sur la mer.
Ça remplace les chères études, parce que je crois qu'il n'a pas fait de latin, pas fait de grec.
Non.
Mais il connaît l'anglais, l'italien.
Oui, alors, si on écoute Saint-Amand, lui-même, il dit qu'il n'a pas fait d'études du tout. Ce n'est absolument pas concevable, d'une part, vu la qualité de la famille, et d'autre part, quand on voit ses œuvres par la suite, on sait que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la mythologie.
Oui, il a des références incessantes.
Il a des références importantes. Il a pu les acquérir, bien sûr, au cours de sa carrière. Mais non, c'est quelqu'un qui a fait des études, disons, moyennes, mais qui ne devait pas être très assidu en classe. Quand il l'italien, l'espagnol qu'il parle couramment, c'est un peu normal parce qu'à Rouen, il y avait énormément d'espagnols et d'italiens à cette époque-là, qui faisaient du commerce. Donc, il a pu en rencontrer dès sa jeunesse. Et puis l'anglais, ben, pour la même raison, l'anglais, l'Angleterre n'est pas très loin de la Normandie.
Mais ce sont quand même ses voyages qui lui ont permis de mieux pratiquer la langue.
Voilà,
les langues.
Ça a permis d'améliorer. Mais disons que l'anglais, par exemple, ça lui a permis de faire partie de l'ambassade du comte d'Harcourt, parce que c'était un homme de confiance du comte d'Harcourt d'une part, mais d'autre part, il parlait anglais. Ce qui est important pour les négociations avec le roi d'Angleterre et avec le Parlement.
Il était poète, mais il a été aussi diplomate. Il est allé dans les cours européennes, en Angleterre, en Suède.
En Suède et en Pologne.
Et en Pologne.
Oui, alors en Suède, par exemple, il était chargé d'annoncer la naissance de la fille du roi de Pologne. C'était une sorte d'ambassade officielle. Il n'avait pas de papier à présenter, mais enfin, disons que verbalement, c'était quand même une ambassade auprès de la reine Christine.
De quoi vivait-il ? Parce que diplomate, c'est momentané. Les expéditions militaires aussi.
Oui.
Donc, il fallait que cet homme arrive à trouver des mécènes.
Au départ, quand son père a accepté qu'il s'en aille faire de la poésie après la marine, hein, puisqu'il est revenu de la marine, il avait une vingtaine d'années, son père a accepté qu'il parte à Paris pour faire une carrière littéraire. On ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais enfin. Et son père lui a donné un pécule. Ça, ça a été le départ. Et ensuite, ben, il a trouvé des protecteurs, comme c'était l'usage. Donc, il a vécu, nourri, logé chez des protecteurs. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie.
Et alors, il est entré dans le cercle des libertins avec Théophile de Viaud, avec d'autres grands personnages qui commençaient déjà à avoir un esprit libre, qui tranchait par rapport à la rigueur du XVIIe.
Tout à fait. Et c'était un peu dans la mouvance du duc de Montmorency, qui était à Chantilly. Et le duc de Montmorency avait comme poète favori Théophile de Viaud. Et Théophile de Viaud est devenu ami avec Saint-Amand, ils se sont retrouvés dans les cabarets et autres, et évidemment, il faisait partie de ces libertins qui étaient poursuivis par les jésuites à l'époque. Et les jésuites ont fait un procès à Théophile de Viaud, bien sûr, qui a failli lui coûter fort cher.
Et ils avaient une langue qui était fleurie, qui était imagée, presque un peu précieuse par rapport au classicisme.
Oui, à cette époque-là, Malherbe avait voulu codifier la langue et la poésie. Et ces personnes-là étaient opposées à Malherbe. C'est-à-dire qu'ils voulaient garder leur liberté totale d'écrire ce que bon leur semblait d'écrire.
Oui, dans la querelle des anciens et des modernes, eux étaient résolument modernes.
Résolument modernes et décidés à parler de tout, y compris de la religion.
Quelle est l'époque précise de Saint-Amand ?
Alors Saint-Amand est né en 1594. Et il est mort en 1661, c'est-à-dire quand il naît, c'est encore le règne d'Henri IV, et il meurt lorsque Louis XIV prend le pouvoir. Louis XIV décide à ce moment-là de gouverner seul, sans Premier ministre. Donc il a vécu une partie du règne d'Henri IV, tout le règne de Louis XIII, et puis la régence, la fronde, et puis ça s'arrête au pouvoir de Louis XIV, puisqu'il meurt au mois de décembre 1661.
Il a vécu aussi donc une période politiquement très troublée.
Très agitée.
Et lui n'en a pas souffert, politiquement parlant.
Non, parce que il était toujours du bon côté, en quelque sorte. Il s'arrangeait pour ça. Il a failli quand même en souffrir avec l'histoire des libertins. Mais C'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas mêlé de l'affaire de Théophile de Viau. Il a pensé que c'était quand même très risqué. Et bon, par la suite, il a trouvé d'autres protecteurs qui étaient assez haut placés pour le protéger, justement. C'est par exemple le comte d'Harcourt ou le duc de Ray. Hein, le duc de Ray qui était un personnage très important, lui aussi.
En ce qui concerne sa poésie, quels sont ses sujets de prédilection ?
Alors, il commence en poésie par de la poésie, disons, un peu sentimentale. C'est l'Ode à la solitude. C'est dès le début qu'il écrit l'Ode à la solitude. Puisque ce poème qui a eu tant de succès et qui a été copié, d'autres ont écrit des odes à la solitude. On a un petit peu plagié ce texte de Saint-Amand. Mais il a écrit ça en 1619. Donc, il avait une vingtaine d'années. Et il était encore à Rouen à ce moment-là. Et on peut considérer que c'est les bords de la Seine qui l'ont inspiré, pour le paysage.
Pour le paysage, oui.
Oui.
Et puis ensuite, il est devenu un petit peu plus naturaliste. Et puis aussi, il a aimé chanter les cabarets.
Oui, alors ça, c'est la période qui a suivi. Lorsqu'il a fréquenté ces libertins, ils se retrouvaient tous. Il avait un grand camarade là qui, évidemment, s'était Faret.
Qui était aussi académicien.
Et c'est lui d'ailleurs qui l'a entraîné vers l'académie. C'est Faret.
C'est un compagnonnage de toutes sortes.
Parce que Faret faisait partie des premières réunions qui préparaient l'académie chez Conrart. Et Saint-Amand n'y était pas au début. Il est venu quand Faret l'a invité à le suivre. Et n'oublions pas non plus que Saint-Amand était grand ami avec M. de Boisrobert, qui était un des fondateurs, lui aussi, de l'Académie, puisque c'est Richelieu qui lui a demandé de réunir tous ces gens-là pour créer une Académie française.
Donc, il ne faut surtout pas avoir de lui l'image d'un poète de cabaret, car c'est aussi un poète d'Académie, de réflexion, de sentiments, de lettres.
Oui, disons que la grande qualité de Saint-Amand, c'est qu'il sait s'adapter. Il s'est adapté très vite, par exemple, à la poésie des précieux à l'hôtel de Rambouillet. L'hôtel de Rambouillet, c'était tout de même pas un endroit où on faisait de la poésie de cabaret. C'était tout le contraire. Alors, à l'hôtel de Rambouillet, il n'y était pas très, très assidu. Il n'allait pas très souvent, parce qu'il était pas souvent à Paris, après tout. Mais disons qu'il était tout à fait bien considéré dans ce milieu-là.
Et alors j'ai lu quelque part que, en fait, à l'Académie, où donc, nous avons déjà dit qu'il n'était pas très assidu,
oui.
Pour le dictionnaire, les académiciens avaient trouvé la solution, et ils s'occuperaient des mots burlesques et grotesques,
oui,
parce
voilà.
Que c'était son sens voilà. De l'humour éternel.
Et c'est ce qu'il avait promis. D'ailleurs, il a des particularités vis-à-vis de l'Académie, parce qu'il n'a jamais fait de discours de réception.
Il a échappé.
Il a échappé. Et puis alors, effectivement, il était bien placé pour cette tâche de faire les mots burlesques.
Mais c'est une tournure d'esprit.
D'une part, et puis dans sa jeunesse, il avait vécu avec les galopins de Rouen qui parlaient un langage pas très châtié. Ensuite, dans la marine, il avait appris aussi un certain nombre de termes. Et puis dans les cabarets pour terminer. Alors, vous voyez, il avait tout un arsenal de mots qu'il pouvait servir à l'Académie très facilement.
Il a toutefois été très apprécié à son époque, parce que je dis toutefois, puisqu'après il a été un petit peu oublié, et puis remis à jour plus tard, mais il a été estimé par tous ses confrères.
Oui, tout à fait. Le premier qui l'a vraiment critiqué, c'est quelqu'un qui ne l'avait pas beaucoup connu, c'est Boileau, parce que Boileau était beaucoup plus jeune, et quand Boileau a critiqué Saint-Amand, Saint-Amand mourait, pratiquement. Donc Boileau n'a vraiment connu que le Saint-Amand finissant, celui qui n'était plus à la mode. Celui qui écrivait Moïse. Sinon, il a été apprécié de tous ses confrères. Tout le monde pensait que Saint-Amand, c'était un des meilleurs poètes avec Théophile de Viau. Il faut reconnaître.
Oui, parce qu'il avait des fulgurances.
Exactement. Il a beaucoup de choses originales dans sa poésie, des images inattendues qu'on ne retrouvera qu'au XIXe siècle. On ne retrouvera ça que beaucoup plus tard. C'est une poésie très concrète, la poésie de Saint-Amand.
Oui, d'ailleurs, il a la poésie pour le melon. Parce qu'il aime les melons. Donc tout à l'heure, vous nous lirez un petit passage pour vous montrer que Saint-Amand, entre la solitude, ses grands sentiments, il a aussi le goût des bonnes choses, de la bonne chair.
Et puis dans le melon, il fait apparaître des sensations qu'on ne faisait jamais apparaître en poésie, par exemple les odeurs. Maintenant, c'est monnaie courante dans les poèmes, mais disons qu'à cette époque-là, on se gardait, on pensait que c'était tout de même un peu trivial d'évoquer tout ça.
Oui, son goût correspondait aussi à un mode de vie un petit peu du nord de la France et non pas l'art policé de l'Italie. Lui, il était plutôt du côté de ces scènes de genre que l'on commençait à voir aussi en Hollande.
En Hollande, tout à fait. Mais ajoutons quand même que Saint-Amand a un tempérament normand aussi. Et les Normands, à l'époque de Saint-Amand, je ne sais pas si ça a changé, mais les Normands aimaient bien critiquer. C'était des satiriques. Beaucoup de poètes normands étaient des satiriques à cette époque-là.
C'était un parti pris.
Oui, oui. Puis c'est le caractère qu'on donnait aux Normands à l'époque, qui aimaient bien les procès, qui aimaient bien la chicane, qui aimaient bien tout ça. Et Saint-Amand appartient à cette... Une des meilleures preuves, c'est qu'il s'est fâché avec ses parents, pas ses parents, sa mère ou son père, mais avec ses sœurs, son beau-frère, pour des histoires de succession et autres. Il a fait des procès. Il correspondait tout à fait aux Normands de l'époque. C'est en cela qu'il est véritablement un poète normand.
Pour conclure, je voudrais bien que vous me disiez, en fait, la véritable originalité de Saint-Amand.
Ben, l'originalité de Saint-Amand, c'est d'être capable de parler de tout. C'est une originalité qui n'en est pas une, en quelque sorte, puisque son œuvre est entièrement variée. Il est capable d'écrire des sonnets sur un paysage, il est capable d'écrire une chanson à boire, il est capable d'écrire une épopée, Moïse, la vie de Moïse. Il est capable aussi d'écrire un madrigal amoureux, l'épigramme critique, n'en parlons pas, c'est sa grande spécialité. Donc, je crois que c'est une des raisons qui a fait qu'au XVIIe siècle, à l'époque de Boileau, on a critiqué Saint-Amand parce qu'on a dit qu'il était un peu touche-à-tout. Or, à cette époque-là, on aimait bien se spécialiser soit dans le théâtre, soit dans la poésie lyrique, soit dans la poésie
épique. Il était protéiforme.
Il était protéiforme. C'est-à-dire qu'il débordait de vie. Et vous savez, ce bon monsieur de Saint-Amand, c'est une invention de l'époque. C'est un de ses confrères qui l'a appelé comme ça. Parce qu'il était au fond bon vivant et bien avec tout le monde. C'était une figure, comme vous dites, qu'on retrouve chez les peintres flamands.
Claude Leroy, vous allez nous lire, après la pause musicale, quelques morceaux choisis. Mais je voulais auparavant vous remercier beaucoup pour nous avoir fait connaître un personnage méconnu du XVIIe et de la littérature.
Oh, que j'aime la solitude, que ces lieux sacrés à la nuit, éloignés du monde et du bruit, plaisent à mon inquiétude. Mon Dieu, que mes yeux sont contents de voir ces bois qui se trouvèrent à la nativité du temps, et que tous les siècles rêvèrent être encore aussi beaux et verts qu'au premier jour de l'univers, que sur cette épine fleurie dont le printemps est amoureux, Philomèle, au chant langoureux, entretient bien ma rêverie, que je prends de plaisir à voir ces monts pendant en précipice, qui, pour les coups du désespoir, sont aux malheureux si propices, quand la cruauté de leur sort les force à rechercher la mort. Quelle odeur sens-je en cette chambre? Quel doux parfum de musc et d'ambre me vient le cerveau réjouir et tout le cœur épanouir? Oh, bon Dieu! J'en tombe en extase. Ces belles fleurs qui, dans ce vase, par le haut de ce buffet, feraient-elles bien cet effet? A-t-on brûlé de la pastille? N'est-ce point ce vin qui pétille dans le cristal que l'art humain a fait pour couronner la main et d'où sort, quand on en veut boire, un air de framboise à la gloire du bon terroir qu'il a porté pour notre éternelle santé? Non, ce n'est rien d'entre ces choses, mon pensée que tu me proposes. Qu'est-ce donc? Je l'ai découvert. Dans un panier rempli de verre, c'est un melon, où la nature, par une admirable structure, a voulu graver, alentour, mille plaisants chiffres d'amour. Baillez-le-moi, je vous en prie, que j'en commette idolâtrie. Oh, quelle odeur! Qu'il est pesant, et qu'il me charme en le baisant. Page, un couteau que je l'entame.
Au revoir, oui, Claude Leroy.
Au revoir et merci beaucoup de votre accueil.